Voilà, bien, on va retrouver tout de suite Cécile Gallien, la maire de Voray. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Alors Cécile, tu as eu le privilège, toi, de converser avec notre président Emmanuel Macron. Vous étiez 10 maires en France. Déjà, vous avez été choisi comment ?
C'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à cette question. En tout
D'accord.
cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait sur 10 maires 5 femmes et 5 hommes, ce que j'apprécie beaucoup. Et que nous étions à la fois des maires de communes rurales, de villes moyennes, et plutôt d'ailleurs de rurales et villes moyennes. Il y avait aussi un maire, le maire de la plus grande ville, ça devait être Cergy, dans la région parisienne, mais il y avait des gens de Bretagne, du sud de la France, du Massif central, en l'occurrence moi, et puis du nord, enfin voilà, et de la Réunion également. Donc on va dire que la France était présente. Dans sa géographie.
Ok. Bon, on sait qu'on est dans une période depuis, enfin, qui dure un petit peu, pas très facile, hein, que ce soit pour les gouvernants, d'ailleurs, et puis un peu pour tout le monde. Alors bon, Emmanuel Macron a annoncé pas mal de choses hier. Alors c'est vrai que ce déconfinement, tout le monde l'attend, parce que je crois que on est un petit peu, on a un petit peu marre, quoi, il faut bien le dire, hein, que ce soit tout le monde. Alors, en plus, nous étant en zone rurale, on n'arrive pas à tout comprendre, hein, bien sûr. Mais bon, ce qui, souvent, quand on parle, les gens disent « Oui, c'est vrai que ça descend tout Paris. Et ce qui se passe à Paris, ça ne se passe pas dans les zones rurales. » Alors ça, c'est difficile à expliquer,
c'est
non ?
Non, c'est faux. Moi, je peux témoigner que le président de la République consulte de manière régulière. Moi, je fais aussi partie d'un groupe de maires de communes de moins de 9000 habitants et cela fait des mois, depuis, on va dire, l'été dernier, où tous les 15 jours, on fait remonter ce qu'on sent du terrain, c'est-à-dire comment vont les commerçants, comment vont les jeunes à l'université, dans les petites écoles, les familles, ça se passe comment, est-ce qu'il y a suffisamment d'aide, le moral des Français est comment Voilà, on fait remonter ça de manière régulière, tous les 15 jours, en fait, à un conseiller du président de la République. Et je sais que c'est pris en considération. Évidemment, les ministres aussi consultent. Quand Gérald Darmanin était ministre des Comptes publics l'année dernière, et quand, après le premier confinement, donc au mois d'avril et mai, il a consulté une quarantaine de maires. J'en faisais aussi partie et j'appelais du coup les chambres consulaires pour leur et puis évidemment les acteurs économiques pour leur demander comment ça va, est-ce que tout le monde peut obtenir un fonds de solidarité de l'État, est-ce qu'au niveau du chômage partiel ça se passe bien, enfin voilà, on faisait remonter tout ce qu'il fallait couvrir en plus et au niveau des aides de l'État, et ça a été énormissime en France. Donc je peux dire, moi je peux témoigner que contrairement à ce qui est dit de manière régulière, les consultations sont permanentes. Plus, bien sûr, je suis vice-présidente de l'Association des maires de France, l'AMF est consultée aussi sur les projets de loi et de manière assez régulière sur le déroulement de cette crise sanitaire.
Oui, alors, j'ai peut-être pas posé ma question. Parce que, si tu veux, moi, ce qui gêne un petit peu quand on est hors la région parisienne, c'est
oui.
que les commerces essentiels, non essentiels, alors déjà on ne va pas revenir là-dessus, étaient fermés. Mais on se pose toujours la question, pourquoi pas rester dans ce qui se passe finalement, pas plus de deux personnes dans un commerce, toujours avec les gestes barrières. Et on a du mal à imaginer que les gens qui sont dans le métro, qui sont dans les transports en commun, qui sont les uns sur les autres,
oui.
ça paraît compliqué quand tu es vu de la Haute-Loire en plus ou d'une autre région.
Mais tout à fait. Tout à fait, tu as raison, sauf que ce qu'il faut dire, c'est quand même rappeler le chiffre. Alors, en Haute-Loire, on se sent toujours protégé, sauf que aujourd'hui, on est le 12e département de France à avoir les moins bons résultats en matière de taux d'incidence du Covid. On frôle les 400 habitants pour 100 000 habitants, ce taux d'incidence dont on entend parler depuis des mois et des mois. Donc on est loin d'être aujourd'hui dans les bons élèves. Moi j'ai encore appelé le directeur de l'hôpital hier, on est à 380. Donc il faut qu'on soit hyper vigilant. Alors comment on explique ceci ? C'est parce que d'abord on est plutôt à proximité de la Loire, qui a beaucoup de liaisons aussi entre la Loire et la Haute-Loire, et puis peut-être avec un certain nombre de comportements, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas se sentir protégés du monde. Les gens aussi en Haute-Loire, ils vivent, ils travaillent, et du coup, on a aussi un taux d'incidence qui est celui-ci. Voilà. Après, sur la question, bien sûr, des commerces. Alors, déjà, entre le premier confinement de l'année dernière, en mars-avril, où quasiment que les commerces alimentaires pouvaient être ouverts, on a demandé, nous, les maires, régulièrement, à ce que d'autres commerces puissent l'être. Donc, après, on a eu, heureusement, l'ouverture des coiffeurs et puis d'autres commerces qui étaient considérés aussi comme essentiels. Et là, on a remonté mardi, lors de l'allocution avec le président de la République, que selon nous, les commerces, les autres commerces de taille petite ou moyenne, à partir du moment où on respecte, comme tu le dis, le nombre de personnes dans la boutique, les gestes barrières, etc., on ne voyait pas maintenant pourquoi on continuerait à les fermer. Donc ça a été acté, puisque dans l'étape de réouverture, les commerces, à partir du 19 mai, sont réouverts. C'est une annonce donc du président Macron hier qui est passée dans la presse régionale partout en France. Donc on a obtenu ceci et c'est juste et c'est bien de le faire. Voilà. Ensuite on a obtenu que les cinémas, les théâtres, et on a des cinémas, on a des petites salles culturelles chez nous, puissent être réouverts. Donc ça le sera à partir du 19 mai. On va travailler pour mettre en place des jauges qui permettent le respect de la sécurité pour les gens qui vont en bénéficier, et puis qu'on puisse avoir à nouveau une vie culturelle, une vie sportive. L'ouverture des terrasses, c'est prévu pour le 19 mai. Dans les communes, on est capable, comme on l'a fait l'année dernière, de mettre à disposition, parfois gratuitement, de l'espace public pour que les bars, les restaurants puissent, on va dire, s'étendre, s'étaler. Là, on va vers les beaux jours. Et puis, en tant que rural, moi, j'ai demandé à ce qu'il puisse y avoir une véritable saison touristique. On a la chance d'avoir des hébergements touristiques, une nature préservée, beaucoup de touristes. L'année dernière, on a eu une saison touristique. Hein. Les Français sont venus en masse à la campagne. Les chiffres étaient plutôt bons. Alors, évidemment, on a eu beaucoup moins d'étrangers dans les campings, puisque c'était compliqué. Mais cette année, on a les vaccins. Il y a une accélération au niveau de la vaccination. D'ailleurs, la Haute-Loire est parmi les meilleurs élèves en termes de vaccination. Aujourd'hui, on a vacciné 30% de la population en Haute-Loire. Et les taux de vaccination des plus de 60 ans sont parmi les meilleurs de France. Entre nos petits centres de vaccination de proximité, les centres qui sont à Brioude, au Puy, à Issingeaux, les infirmières, les médecins, sur nos communes rurales et qui travaillent avec les pharmaciens et qui vaccinent maintenant les plus de 55 ans, mais à partir de maintenant, on peut vacciner aussi les gens qui sont en surpoids. Ça a été aussi une annonce récente du président de la République, et ça représente 2,5 millions de Français quand même, hein, les gens qui sont en surpoids. Et ben voilà, la vaccination se déroule et s'accélère. Et aujourd'hui, on a des vaccins, d'où quelque part une gestion entre guillemets en bon père de famille entre la vaccination qui doit progresser, absolument continuer à progresser ici, hein, dans notre département, mais partout en France et ailleurs, et puis cette liberté retrouvée par la réouverture entre mi-mai et juillet des commerces, des bars, des restaurants, des loisirs sportifs, culturels, voilà, et évidemment du tourisme. Donc cette phase progressive de réouverture, elle est plutôt bien organisée. À partir du 9 juin, là, cette fois-ci, c'est les restaurants et les cafés qui réouvrent. Alors évidemment, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Là, le protocole, c'est d'organiser les choses par table de 6 personnes maximum. Et puis on aura, grâce au pass sanitaire, la possibilité, si les choses restent au niveau sanitaire comme c'est aujourd'hui, on aura la possibilité d'accueillir des touristes étrangers cette année. Des touristes qui auront obligatoirement un pass sanitaire. Sinon, ils ne viendront pas, ils ne seront pas autorisés à venir. Voilà, donc je pense qu'il faut... Voilà. Alors, par contre, cette réouverture, elle est conditionnée au respect d'un chiffre, hein, qui est ne pas dépasser le taux d'incidence de 400. 400 habitants pour 100 000 habitants. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Haute-Loire, on est à 385. Donc, on frôle. Donc il faut en appeler, mais comme on le fait et comme la majorité des Algériens l'exercent, en appeler à la citoyenneté de chacun, à la responsabilité de chacun. On sait très bien comment ça s'attrape, le Covid. C'est les postillons, les micro-postillons, les mains sales, voilà, on sait comment ça s'attrape. Donc charge à chacun d'entre nous de respecter au maximum ceci pour qu'on puisse véritablement, et tous, les jeunes comme les moins jeunes, avoir une vie un peu plus normale à partir de mai. On le souhaite tous. Voilà. Donc je pense que j'espère que ça va bien se passer.
Alors, on a parlé des vaccins, justement, de la vaccination. Alors là, bien sûr, on entend tout et son contraire. Il y a certains médias qui ont fait quand même beaucoup de mal. On parlera de ce vaccin AstraZeneca, là. Alors, qui ont... parce que, bien sûr, le but, plus on vaccine de personnes, plus le risque va diminuer. Et on voit que certains ont refusé parce que, justement, c'était pas... On a tellement dit que ça faisait mourir les gens alors que les Anglais en ont vacciné 20 ou 30 millions et qu'il n'y a pas eu grand-chose. Alors, autre chose aussi, puisque j'ai entendu que, je crois... Bon, les États-Unis vaccinent à partir de 21 ans. Je crois que les Anglais, c'est à partir de 25 ans. Est-ce que nous, il y a une chance que ça descende un petit peu pour les plus jeunes ?
Oui, bien sûr. En fait, la stratégie, c'est quand même de maintenir cette question d'âge, de tranche d'âge et de vulnérabilité. Parce qu'on sait très bien depuis le début que c'était les plus anciens, les anciens qui risquaient malheureusement d'arriver dans les salles de réanimation et puis voilà, et qui risquaient leur vie. Donc là, ça progresse vraiment beaucoup. Et là, je rappelle que la Haute-Loire est dans les meilleurs départements à avoir vacciné les plus anciens. Grâce d'ailleurs à la mobilisation des maires, hein, qui ont, comme tu le sais, recensé dès le mois de janvier tous les plus de 75 ans qui voulaient se faire vacciner. On a organisé les transports, on a fait tout ce qu'il fallait. En fait, aujourd'hui, par rapport au vaccin, je vois concrètement ce qui se passe. Quand tu vas te faire vacciner au Puy, c'est du Pfizer. Si tu veux te faire vacciner dans un centre de proximité Craponne, c'est du Pfizer. Mais pour l'instant, dans nos communes où on a la chance d'avoir des maisons de santé, des infirmières, des médecins et des pharmaciens, c'est de l'AstraZeneca. Franchement, il y avait une défiance importante vis-à-vis de l'Astra, défiance qui était franchement pas justifiée, parce qu'il y a eu très très peu de problèmes de thrombose, hein, par rapport aux millions et aux millions de personnes qui ont bénéficié de ce vaccin. Donc cette défiance, elle a tendance à baisser. Moi, je vois à Voré, les infirmières vaccinent toutes les semaines des dizaines et des dizaines de personnes depuis quelques semaines. Pour celles qui vraiment refuseraient l'AstraZeneca, eh bien, elles vont se faire vacciner au Puy ou à Craponne. Et il n'y a aucune dose qui n'est jetée, aucune. En Haute-Loire, on sait très bien que passer des coups de fil et trouver des gens qui veulent se faire vacciner. Donc c'est pareil, les médias disent on jette des doses. Ce matin, je passais sur France Inter, des trois maires dont moi qui avons témoigné, un de la région parisienne, l'autre de Bretagne et moi pour Massif Central, on a clairement dit on ne jette pas de doses. On sait trouver clairement des gens qui veulent se faire vacciner. Alors sur la question de l'âge, il faut d'abord vacciner le maximum de personnes, voilà, les plus vulnérables. Tu me parlais de l'âge, donc la question de la vulnérabilité, du surpoids, ça y est, à partir de 18 ans, tous les gens qui sont considérés étant en surpoids, ils peuvent se faire vacciner dès maintenant. Et puis progressivement, les personnes les plus jeunes vont pouvoir le faire aussi. Moi, je ne peux pas mieux en dire que ceci. De toute façon, on va dire jour après jour, semaine après semaine, les responsables du ministère de la Santé examinent d'abord comment évoluent les variants, comment ça se passe au niveau de la vaccination et rectifient le tir. Je pense que les choses vont se libérer progressivement pour les plus jeunes. Voilà. Ça va venir, et ça va venir, je pense, assez rapidement.
Oui, alors bon, c'est vrai que tu disais, en Haute-Loire, on ne jette pas. Ben, heureusement, parce qu'on a vu que dans des endroits, il y a un médecin qui l'a fait voir en direct, qu'il était obligé de jeter des doses. Ça fait quand même mal au cœur, alors qu'il y a des gens qui pourraient se faire vacciner. Alors moi, c'est ce que je disais. Hein. Nous, on est vaccinés depuis tout petit. Hein. On n'a jamais été, comme a dit mon médecin, hein. Un vaccin, ça n'a jamais tué personne. Hein. Donc voilà. Et je crois que c'est un peu une action de civilité, hein, parce que eh ben, plus il y aura de gens vaccinés et plus on a des chances que tout redevienne à peu près, je ne dis pas à la normale, mais à peu près à la normale. Donc que des gens refusent, pourquoi? Ils n'en savent même rien. Parce qu'est-ce qu'on sait que si Pfizer ne va pas avoir des choses derrière, on ne peut pas le savoir, puisque c'est trop court. Voilà, moi c'est un peu dans ma tête, c'est ce que je pense, quoi.
Oui, non, mais tu as raison. Au départ, il y avait soi-disant une méfiance des Français. Alors peut-être, j'en sais rien, mais ça a été grossi aussi par les médias. On voit bien, c'est fou ce qu'on vit aujourd'hui. Si on est en permanence devant la télé ou sur les réseaux sociaux, il y a de quoi devenir malade, quoi. Donc il faut faire attention aux informations qui nous sont apportées. Et on a bien vu finalement que la majorité des Français voulaient se faire vacciner. Et puis autour de nous, on est bien content que nos anciens, nos parents, nos grands-parents soient protégés. Et on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir vivre à peu près sans crainte, quoi, de voir disparaître autour de nous les gens qu'on aime. Donc je pense que enfin progressivement, sauf vraiment les anti-vaccins ou ceux qui auraient des grosses pathologies et pour lesquelles ce serait vraiment déconseillé, je pense que la majorité des gens vont se faire vacciner. Et puis la recherche a énormément avancé. Et d'ailleurs, certains vaccins ARN qui ont été inventés là dans le cadre de ce Covid vont pouvoir servir après peut-être pour résoudre des pathologies du cancer. Voilà, il y a des choses qui vont avancer aussi de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi j'incite le maximum de personnes à aller se vacciner. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous on a des médecins qui connaissent leurs patients. Et souvent, quand il y a une dose qui reste, il y a des coups de fil qui sont passés et assez rapidement, on trouve preneur, quoi. Voilà. Il y a même parfois des listes d'attente chez le pharmacien pour pouvoir se faire vacciner. Donc, voilà. Je crois qu'on est, faut qu'on soit responsable de tout. Alors après, on a évoqué aussi la question du pass sanitaire. Cet été, je répète, hein, si tout va bien, si le taux d'incidence, si on est en dessous des 400 dans nos départements respectifs, on pourra organiser des festivals, on pourra organiser des rassemblements culturels ou sportifs qui dépasseraient même jusqu'aux 5000 personnes. Et les gens qui pourront bénéficier de ces regroupements festifs devront avoir un pass sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'un pass sanitaire? Ce n'est pas un pass vaccinal. Un pass sanitaire, c'est soit tu es vacciné contre le Covid, soit tu as un test inférieur à moins de 48 heures et qui, évidemment, indique que tu n'as pas le Covid. Donc, en fait, j'ai envie de dire que beaucoup de choses sont mises en place. Aussi pour les jeunes qui ne seront pas forcément tous vaccinés cet été, hein, mais pour qu'ils puissent aussi bénéficier de d'animation, de convivialité, voilà, de tout ce qui fait un peu la saveur de la vie et puis la saveur de l'été. Donc ça c'est aussi mis en place, en tout cas c'est dans les annonces. Et ça pourrait avoir lieu à partir du 9 juin, voilà, sur nos départements.
Oui, alors pour revenir rapidement sur les vaccins, alors c'est vrai que, alors c'est que moi qui le dis, attention, je pense qu'il y a quand même une guerre des laboratoires parce que on m'a dit, je pense que c'est vrai, que l'AstraZeneca valait 13 fois moins cher que le Pfizer. Alors bon, on comprend bien que en ce moment les laboratoires, faut le dire, sont en train de se gaver, hein. Il y avait un article qui est paru dans Forbes, hein, qui est un magazine financier, qui disait que dans les 10 plus riches au monde, c'était 5 directeurs de laboratoires, hein, donc voilà, il peut y avoir un peu de suspicion. C'est tout ce que je voulais dire.
Oui, ça questionne sur l'éthique. Tu as tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Poser cette question. Certains chercheurs dont on a bénéficié des vaccins quand on était petit, eux ne se sont pas fait payer sur le résultat de leurs recherches. Aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, le monde a changé et la recherche et les laboratoires, oui, sans doute certains abusent, quoi. Voilà, alors que la santé, ça doit être un bien commun, un bien partagé. Voilà, tu as raison de poser cette question. Après, je n'ai pas d'éléments.
Non, non, mais je comprends bien.
Donc, je ne peux pas répondre à ta question.
Non, non, mais je pense. Ouais, non, mais je ne demandais pas de réponse. De toute façon, on sait quand même que le bien le plus précieux pour une personne, c'est la santé. Hein. Donc, à partir de là. Alors, bon, c'est vrai que. Alors, c'est difficile, hein. On critique pas, hein, on constate, mais on va dire qu'Emmanuel Macron, parfois, je comprenais pas toujours ce qu'il voulait faire, mais j'ai trouvé qu'il avait été quand même assez fort, c'est quand il a résisté à toutes les pressions, que ça vienne des médecins, que ça vienne des hôpitaux, parce qu'à un moment, il a dit quand même, il faut arrêter, hein, il faut commencer à voir un petit peu le bout du tunnel. Et là, je pense qu'il a dû avoir une pression énorme, mais il a quand même résisté. Et là, pour un jeune président, c'est quand même pas mal, parce que comme on disait, hein, c'est le seul président, ça s'est jamais vu dans d'autres présidences. Il y en a certains qui ont eu des crises, hein, comme sur Sarko, c'était la crise financière. Après, pour Hollande, c'était les attentats. Mais lui, c'est qu'il s'est tout payé, lui, pendant... C'est pas fini, mais lui, il aura tout eu, hein.
Oui, c'est vrai. Franchement, tu as raison. Il aura tout eu, des contextes vraiment très très compliqués, sociaux, sanitaires. Enfin, voilà. Alors après, moi je le connais un peu en fait. Et entre l'image qu'on lui colle et la personne qu'il est, il y a un delta. Et en fait, il a opéré cet arbitrage entre le strictement sanitaire et évidemment la pression de tout le monde médical, hein, et puis la vie quotidienne des Français et l'espoir, l'oxygénation que demandaient les Français, tous les Français, que ce soit les anciens mais aussi les jeunes, hein, les... Donc, en fait, il a fait cet arbitrage politique, il a décidé, mais il a décidé en sentant les choses et en écoutant ce qui remontait du terrain. Voilà. Et puis, après tout, c'est aussi de son domaine, hein, d'essayer d'orienter, de donner le cap et de donner l'espoir. Hein. Le président de la République française, normalement, il est là pour, si possible, prendre les meilleures décisions possibles et puis faire en sorte que les Français soient les plus protégés, mais aussi les plus, peut-être pas heureux, mais ouais, possible, quoi. Donc moi, je pense qu'il a... Bah, déjà, ça fait 1 an et 3 mois, hein, qu'on subit cette crise sanitaire. Donc on a appris beaucoup, lui comme nous tous. Et en effet, il a fait cet arbitrage qu'il fallait faire parce que maintenant on sait comment ça se transmet, hein, le Covid. Il y a les vaccins et il y avait une attente énorme des Français d'essayer de vivre à peu près normalement maintenant. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne portera pas le masque, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre l'habitude de se laver les mains, ça ne veut pas dire que... Mais bon, voilà. Et puis, la difficulté, c'est aussi qu'il faut gérer, évidemment, la question de l'ouverture ou de la fermeture des frontières, puisque c'est une pandémie mondiale. Donc ça aussi, c'est quelque chose de difficile. La France ne vit pas repliée sur elle-même. Donc, il faut aussi gérer cette question-là. Voilà. Mais par exemple, pour citer un exemple, il y a eu le premier confinement l'année dernière, de mi-mars jusqu'à à peu près juin. Après un déconfinement progressif, et les gens ont eu des vraies vacances l'été, etc. Ensuite, il y a eu malheureusement, du fait de la fréquentation d'été, une deuxième vague au mois de septembre. Et puis en fait, nous, on a fait remonter les choses en disant, ce qui compte vraiment, c'est que les Français puissent se retrouver en famille à Noël, le plus possible. Parce qu'on sentait que c'était dur pour tout le monde. entre voilà que les gens entre les parents, les enfants, les grands-parents puissent quand même se voir un peu à Noël. Donc ce qui a été décidé, c'est qu'en novembre, il y avait quelques mesures à nouveau de reconfinement partiel qui ont été décidées de façon à ce que les taux de contamination rebaissent et qu'on puisse ouvrir un Noël, enfin permettre un Noël pour les familles. Donc cette prise en considération à la fois des arbitrages sanitaires et des arbitrages de la vie et de la vie quotidienne, la vraie vie hein, privée, professionnelle des Français a toujours été, on va dire, prise en considération. Quoi. Voilà. Et je parle même pas des acteurs économiques, des salariés hein, qui pendant le premier confinement ont été rémunérés. C'est-à-dire c'est l'État qui a payé les salaires des salariés privés à la place des entreprises, puisqu'il y avait des fermetures administratives d'entreprises et des fermetures d'entreprises partielles, enfin momentanées. Donc voilà, c'est bon. Je pense que ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui la crise sanitaire n'a pas fait exploser ni les faillites, ni le nombre de faillites hein, des entreprises, ni le taux de chômage. En France, on a amorti le choc grâce aux aides énormes de l'État, mais aussi hein, des départements, des régions, des communes, des intercommunalités. Et je crois que tout le monde s'est donné la main pour faire en sorte d'amortir ce choc. Voilà. Donc, espérons que les maintenant on soit tous raisonnables, que le couvre-feu on le respecte jusqu'au 19 mai parce qu'il est maintenu à 19h encore jusqu'au 19 mai et qu'ensuite on puisse aller dans nos commerces en respectant les protocoles sanitaires, aller dans les bars, les restaurants également en respectant un peu la distanciation physique, les protocoles et qu'on puisse passer un peu du bon temps cet été, quoi. Voilà. Je crois que c'est... Et puis après, il y a la question de la relance économique parce que ce Covid nous a chamboulé tout azimut, hein. Parfois psychologiquement, parfois on a envie de changer de travail, parfois, enfin, c'est très... Et ce qu'on se rend compte, alors je me permets de le dire, c'est que pour nos campagnes, nos communes rurales, nos magnifiques territoires ruraux, aujourd'hui, vous interrogez les notaires, ils n'ont quasiment plus aucune maison à vendre.
Ah, ça, je confirme.
C'est impressionnant, mais sur toutes les communes, on avait encore une réunion ce matin entre les élus de l'agglomération et on parlait notamment de développement économique. C'est impressionnant. Il n'y a plus quasiment plus aucune maison à acheter parce que les gens du cru qui étaient partis en ville ou ailleurs se sont dit je reviens dans ma Haute-Loire natale pour y travailler, pour y développer mon activité ou pour y passer ma retraite. Où j'habite une grande ville, que ce soit Montpellier, Lyon, Saint-Étienne, ou alors Paris, pas trop pour nous, mais un peu quand même. Et je vais vivre dans un coin où j'ai eu le bonheur de passer les vacances, ou alors dans un coin qui me paraît sympathique, qui s'appelle la Haute-Loire. Et je vais pouvoir vivre dans un espace... naturel magnifique avec des gens sympathiques, des commerces, alors pas des trucs pas les grandes boutiques partout, mais des commerces essentiels, une animation sportive, culturelle, quelque chose d'apaisant en fait et de protecteur. Et ce mouvement n'est pas une mode, c'est un choix qu'ont opéré les Français. Alors nous, chez nous, on a un peu la chance de pas être à une heure de Paris, donc de n'être ni la Bretagne ni à une heure de Paris. Et donc au niveau des prix, il n'y a pas eu une flambée outre mesure des prix de l'immobilier. Tant mieux. Mais bon, maintenant, il va falloir qu'on puisse accueillir aussi... de la meilleure manière possible tous ces nouveaux habitants. Et puis voilà, je pense que c'est une chance à saisir, quoi.
Ou alors ça peut peut-être, on en parle depuis des dizaines d'années, ça peut peut-être accélérer un petit peu la décentralisation aussi, parce qu'on dit on décentralise, mais jusqu'à présent on n'a pas tellement décentralisé. Hein, donc, c'est ce que je disais, beaucoup de choses sont sur la région parisienne. Alors, quand j'ai commencé par cela, j'avais dans l'idée que on est traité comme les gens des grandes villes, mais toi, tu es maire, tu le sais. Par contre, quand il est question de distribuer les dotations aux communes, eh bien, les dotations en zone rurale ne sont pas tout à fait les mêmes que les dotations en zone urbaine. Alors, pourquoi ? On se pose la question.
Oh,
quand
ben
même.
Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans.
Mais ça, je enfin, sais que ça fait 30 ans.
Depuis que la DGF existe, hein, la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux, aux communes de France, on est toujours, ça fait 30 ans que ça dure, hein, et pourtant je peux te dire qu'on bataille, hein, nous les maires ruraux, à se faire entendre depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais par contre, je crois qu'il y a vraiment maintenant une révolution, là. Je veux dire, il suffit de regarder les chiffres, d'appeler les notaires, et on va le voir, les statistiques de l'INSEE vont le dire. Donc cette politique de réaménagement du territoire, elle est essentielle. Et par exemple sur ce qui concerne, il y a deux ans, l'État qui a dit je vais essayer de maintenir le dynamisme dans les villes de province. Ça s'appelle Action Cœur de Ville. Le Puy-en-Velay en a bénéficié. Et nous dans l'agenda rural, tu sais que je l'ai coécrit avec quatre autres collègues, on a dit il faut aussi maintenir les bourgs-centres parce que si on regarde par exemple la Haute-Loire, elle est à un quart d'heure de là où tu habites, tu trouves un bourg-centre avec des écoles, des loisirs sportifs et culturels, des commerces de proximité, les pompiers, la gendarmerie, un bureau de poste, enfin tout, des collèges, tout pour la vie au quotidien en fait. Voilà. Donc maintenant, il faut développer les transports du quotidien. Et là, il y a des enjeux au niveau tant des régions qui maintenant en ont la compétence et des intercommunalités, permettre aux gens de faire leurs courses, même s'ils sont dans un village un peu isolé. Voilà. Donc, charge à nous aussi, quelque part, les responsables publics, de faciliter le quotidien des gens, de mettre l'argent public, finalement, là où il faut le mettre, sur les questions absolument essentielles. Donc voilà, après au niveau du numérique et de la téléphonie mobile, depuis 3 ans, ça se développe beaucoup. Dans nos campagnes, on voit se développer la fibre, on voit s'installer des pylônes pour avoir la 4G. Voilà, ça a quand même progressé depuis 3-4 ans, quoi, et même un petit peu plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Parce qu'aujourd'hui, un jeune à l'école, un collégien, un artisan, enfin. N'importe quelle personne doit avoir la téléphonie mobile et un débit suffisant à la maison. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, comme l'eau au robinet dans les années 60. Enfin, c'est, voilà, et ça progresse. Et puis moi, je suis persuadée que... Voilà, alors il faudra continuer à se battre. Par contre, il y a un truc super intéressant qui vient d'advenir. Dans le cadre de l'agenda rural, on avait dit aussi, d'abord, un, il faut absolument maintenir les zones de revitalisation rurale, les ZRR, puisque ça permet quand même des exonérations quand on crée son entreprise. Ça permet, par exemple, dans certains EHPAD, je citerai ceux que je connais, Voré, Beaulieu, d'avoir 80 000 euros d'exonération sur les charges salariales par an. C'est juste essentiel. Donc tout ça, c'est maintenu. On a milité pour que ce le soit. C'est maintenu. Voilà, et puis ce qui est arrivé, c'est que jusqu'à présent, l'INSEE déterminait les communes rurales, comment dirais-je, en fonction de... Tu étais une commune rurale si tu n'étais pas une ville, c'est-à-dire par défaut. Ce qui n'était pas une ville était du rural. Or, nous, on a voulu, les élus, on a obtenu ça, que le rural soit identifié par plusieurs critères, non pas par opposition à la ville, mais par des critères de densité, d'espace, etc. Et ça, c'est une bataille qu'on a remportée très récemment, il y a quelques mois, qui est maintenant inscrite dans la loi. Et ces définitions de communes rurales, donc maintenant, on est passé à plus de 30% de la population française qui est considérée comme la population vivant dans des communes rurales. Tout ceci va être pris en considération, justement, pour qu'on ait plus de dotations, plus de politiques publiques en faveur des territoires ruraux. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu technique ce que je vous dis là, mais les choses progressent. Alors, voilà, puis moi, je suis une militante de la ruralité, je suis de Vorée, tous mes ancêtres sont d'ici et je suis fière d'être de la Haute-Loire. Et puis voilà. Et cette crise Covid, malgré les malheurs qu'elle aura pu apporter, elle apporte un plus pour nos campagnes, vraiment.
Ouais, je pense que bon, ça a été malheureux, hein, mais ça a remis parfois un petit peu les pendules à l'heure, hein, si on peut dire, hein, parce que on s'est rendu compte de plein de choses où on passait complètement à travers, la vie se déroulait tranquillement. Mais quand il y a quelque chose comme ça, eh ben voilà, les gens, peut-être certains, ça les fait réfléchir et dire oui, oula, finalement. Eh ben voilà, hein, il nous arrive ça. Nous, on était une génération, comme on disait avec des copains, on n'a rien connu, nous, ni la guerre, ni le sida, ni la drogue. Eh ben, on aura connu au moins le Covid quand même.
Oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, enfin, ce qui est remarquable aussi, c'est que si tu interroges les entreprises du BTP, hein, du bâtiment, elles ont les carnets de commandes pleins. Il y a beaucoup aussi de PME innovantes, hein, en Haute-Loire comme dans d'autres territoires ruraux en France, qui sont en train de se développer aussi. Alors évidemment, il y a certains secteurs économiques, mais nous, on n'est pas concernés vraiment en Haute-Loire, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, là, par contre, c'est très compliqué pour eux. Mais chez nous, moi, je pense que économiquement, il y a des choses qui fonctionnent, quoi. Maintenant, reste à former le maximum de personnes pour pouvoir répondre aux offres d'emploi, parce qu'il y a des offres d'emploi et parfois on a encore du mal dans certains secteurs et dans beaucoup de secteurs à y répondre dans nos territoires ruraux.
Mais c'est même pas parfois, puis c'est même pas que dans les territoires ruraux. C'est un peu partout que, ben, on sait pas, les gens. Je ne sais pas s'ils n'ont pas envie ou je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de... On dit qu'il y a du chômage, on dit également que le Covid a fait du mal, mais bon, il y a quand même, on voit, nous, on annonce régulièrement des demandes d'emploi et c'est très difficile, ça soit les entreprises, même les, je dirais, même les mairies, et tout, c'est très difficile de trouver des gens, donc voilà. Donc je pense qu'il y a quand même... on va voir l'après-Covid, mais... On aura un changement, hein, c'est forcé. Alors, on espère que le changement va être dans le bon sens, quoi. Voilà.
Bien sûr. Oui, oui.
Ben écoute,
on l'espère tous.
Ouais. Cécile, merci d'avoir été avec nous. Hein. Tu es maire d'une petite commune. Alors, tu sais la difficulté à satisfaire, je dirais pas tout le monde, parce qu'on peut jamais satisfaire tout le monde. Donc, oui. Quand on pense à un président de la République qui a 60 millions ou 65 millions de personnes, on comprend que c'est encore un petit peu plus compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester, je dirais, dans nos jugements, voir, mais bon, réfléchir un petit peu, hein, parce que on sait, hein, on s'est occupé de communes et pour satisfaire les uns et pas contrarier les autres, ben. Je crois que c'est pratiquement impossible, mais bon, je pense qu'il faut faire de son mieux. Il faut, que ce soit les maires, que ce soit les députés, que ce soit n'importe qui, ils ont des idées. Bon, après, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, hein, mais c'est comme dans la vie, hein. Des fois, on prend des décisions bonnes et des moins bonnes. Voilà.
Je voudrais, est-ce que tu permets, je voudrais juste...
Ah ben, vas-y. Oui. Ah ben, ça y est, 40 minutes. Ah non, vas-y, quand tu veux.
Je voulais dire que un pays, la France, comme une commune, hein, Vorée, Craponne, enfin n'importe quelle commune, moi je considère que c'est comme un corps vivant, un corps humain, où il y a les membres, hein, la tête, les pieds, les jambes, les mains, tous les membres constituent ce corps vivant. Et entre tous les membres, il y a des flux. Ça peut être des flux sanguins, ça peut être des flux nerveux. Et ce corps, il est dans un environnement. Moi, j'estime que le maire, par exemple, comme le président de la République, son objectif, c'est de faire en sorte que les liens entre tous ses membres d'un même corps vivant reste le plus en adéquation, voilà, que les choses fonctionnent bien, en fait, entre tous ces organes, tous, à l'intérieur de ce corps vivant. Et que l'environnement auquel est confronté ce corps vivant peut être négatif, exemple le Covid, comme positif, exemple, si on peut dire, là, l'air pur qu'on a la chance d'avoir ici. Voilà. Et en fait, le job, à mon avis, d'un responsable public, c'est de faire en sorte que ce corps vivant, il reste le plus possible, le mieux possible et le plus longtemps possible en bonne santé. Donc nous, on est des facilitateurs, en fait, de liens et de cohésion. En tout cas, moi, c'est comme ça que je définis ma mission. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.
Si, si.
Mais les médecins, eux, parfois font de la... essaient de guérir les corps vivants. Nous, on essaye de faire en sorte, avec l'ensemble, bien sûr, des responsables publics ou privés de ce pays et tous les responsables, hein, et même chacun des citoyens, faire en sorte que ce corps vivant, il reste en bonne santé. Voilà, c'est ce que je voulais avoir une image un peu positive et collective de cette discussion et de notre action commune à tous.
Eh bien, écoute, Cécile, merci d'avoir été avec nous. Voilà, on a pu débattre de ce Covid-19. On espère que tout doucement, il va s'estomper. Et nous, encore, on n'a pas à se plaindre. Hein. Comme on le disait, on est en zone rurale, donc c'est beaucoup moins difficile que la personne qui est à Paris dans 40 mètres carrés, hein, bien sûr.
Tout à fait.
Merci, Cécile, d'avoir été avec nous. Et bon courage.
Avec plaisir. Bon week-end, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir, Cécile. Salut.